Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Même à l'époque où elle était l'une des plus grandes soprano coloratures de la planète, elle se définissait comme une actrice qui chante. Pas étonnant qu'elle porte désormais au plus haut l'art de l'incarnation, même dans ce genre si éloigné de l'art lyrique qu'est la variété jazz du répertoire de Nougaro. L'album de Nathalie Dessay, baptisé simplement « Dessay Nougaro », est un moment de grâce et de vérité absolue de l'émotion. En 2020, Nathalie Dessay s'élancera dans une grande tournée des villes de France qui passera par Paris le 9 juin au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Bah, avouez que tout ça mérite bien de se parler avec le cœur.
Europe 1.
Et c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Bonjour Nathalie Dessay.
Bonjour Isabelle.
Alors Nathalie Dessay, vous qui dans l'art lyrique avez atteint la marche ultime de la performance, voilà que, en fait, vous livrez avec cet album de l'émotion pure, dépouillée de toute performance. L'une des plus grandes soprano coloratures au monde a donc trouvé une autre façon de chanter qui lui ressemblerait davantage.
Oui, c'est-à-dire que j'ai coutume de dire que la voix d'opéra, c'est une voix folle, une voix inhumaine, une voix athlétique, ouais. Une voix presque surhumaine en fait. Alors que la voix qu'on emploie pour chanter des chansons, c'est la voix plus personnelle, on va dire. Plus intime aussi, puisqu'en l'occurrence, la mienne, elle est très douce, très grave.
C'est ce qu'on entend, par
elle
exemple.
Elle murmure véritablement à l'oreille de l'auditeur, contrairement à la voix d'opéra qui est faite pour être chantée sans micro.
Alors, une voix ne fait pas forcément une chanteuse. Il faut le supplément d'âme pour incarner. Mais on n'incarne pas dans la variété comme on incarne dans le lyrique.
Non.
Comment êtes-vous passé de l'un à l'autre, au niveau de l'intention? C'est-à-dire, comment se débarrasse-t-on de tout ce qui fait la grandeur d'une chanteuse lyrique, d'une chanteuse d'opéra, pour s'attacher aux humeurs, aux phrasés et aux grooves de la variété jazz?
Alors, c'est un long cheminement, en fait. Ça m'a pris plusieurs années, parce que je croyais, au départ, que qui pouvait le plus pouvait le moins. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Il faut vraiment avoir un désir chevillé au corps de se transformer, de changer, d'apprivoiser le micro et de trouver son autre voix, sa vraie voix, je dis. Alors, c'est pas que l'autre, c'est pas que la voix d'opéra, c'est une fausse voix, mais c'est une voix fabriquée.
Ouais. Alors, que fallait-il chercher et trouver pour être fidèle à l'esprit de Nougaro sans vous contraindre?
Alors déjà, il fallait trouver, j'allais dire, un couturier fabuleux, un Yves Saint-Laurent en fait. Et mon Yves Saint-Laurent, c'est Yvan Cassar.
Ouais, ouais.
Parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui me fasse des arrangements sur mesure et qui m'aide à aller dans ce chemin de douceur et d'intimité. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'on a... On a d'abord enregistré ma voix avec lui au piano. Ensuite, il a pu rêver les arrangements. Et ensuite, j'ai refait les voix une fois que tout était enregistré au niveau des arrangements.
Ah oui.
Donc, ça a été un long travail. Et je me sens un peu comme un papillon sorti, j'allais dire pas péniblement, mais longuement de sa chrysalide.
Oui, parce que c'est une aventure vraiment étonnante que celle de la variété pour vous, Nathalie Dessay. Bon, je rappelle que vous possédez une voix de soprano coloratura qui a fasciné les puristes dans le monde entier. Quand vous chantiez, par exemple, je l'ai écouté encore cette nuit, La Reine de la Nuit dans la flûte enchantée de Mozart. C'est absolument fascinant. Et cette fois-ci, il s'agit de moduler avec une voix grave et profonde dans la variété. Est-ce qu'il est vrai qu'au Conservatoire de Bordeaux, pendant votre apprentissage de l'art lyrique, vos professeurs vous répétaient « Ah, surtout, il ne faut pas chanter variété hein. »
Ben oui, c'est ça, parce que moi, je venais de là. J'écoutais beaucoup de variété quand j'étais adolescente, quand j'étais gamine. Donc, quand j'ai commencé à chanter, je n'avais pas du tout la culture de l'opéra. Donc, je chantais avec une voix relativement aiguë, relativement facile et souple, mais avec un petit côté variété que ma prof n'aimait pas du tout. Et c'est ça qu'il s'agit de retrouver aujourd'hui précisément, alors que j'ai mis 30 ans à m'en débarrasser.
Bon, Nathalie Dessay, vous avez grandi en écoutant Brel, Brassens, Ferrat, mais après l'univers de Michel Legrand, c'est dans l'émotion jazz de Nougaro que vous avez décidé de plonger corps et âme. Pourquoi lui? Pourquoi
Alors,
Nougaro?
Parce que c'est un de mes chanteurs préférés, parce que c'est un immense poète, parce que j'adore ses chansons depuis toujours. Et il y a une filiation aussi avec Michel Legrand. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, ils ont créé une vingtaine de chansons ensemble, qui sont quasiment toutes des chefs-d'œuvre.
Ouais.
Donc, ça me semblait logique.
Vous n'êtes donc plus dans la performance, mais dans l'humain. C'est très courageux, hein, quand on est couvert de lauriers pour un art, de décider d'en explorer un autre en renonçant à ce qui a fait sa gloire. Est-ce que vous êtes la seule cantatrice mondialement connue, Nathalie Dessay, qui a fait le chemin dans ce sens?
Alors, je peux dire que en France, probablement, mais dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus courant. Parce que il y a beaucoup de chanteurs qui ont commencé par exemple par la comédie musicale ou le jazz, je pense à René Fleming par exemple, qui sont allés vers l'opéra et puis qui font des va-et-vient comme ça entre les deux univers. Mais chez nous en France, c'est plus compliqué.
Alors revenons à Nougaro. Nathalie Dessay, vous avez chanté en duo avec Claude Nougaro sur l'album sorti de façon posthume en 2004, mais vous aviez enregistré séparément. Il était alors très malade. Pourtant, avant de nous quitter, Nougaro voulait vous écrire une chanson.
Oui, il m'avait dit, pour rigoler, parce qu'il était venu me voir à l'opéra. Et donc, à l'époque, je chantais La Reine de la Nuit, Les Clochettes de l'Acmé. Il m'avait dit, je vous écris, parce qu'il me vous voyez, je vous écrirai une chanson qui s'appellera La Fée Clochette. Et il ne m'a pas écrit cette chanson. Donc, du coup, je me suis vengée en chantant la sienne.
Bah, vous avez bien fait. Alors, laquelle, justement, avez-vous le sentiment qu'il a écrite pour vous parmi les 14 chansons sublimes qui sont rassemblées sur cet album tout simplement intitulé De Scène Nougaro?
Alors, il y en a une que j'aime particulièrement qui s'appelle La Vie en Noir. Parce qu'on dirait qu'elle a été écrite pour moi. C'est-à-dire que chaque mot qu'il dit et qui lui est si personnel peut s'appliquer à moi. C'est-à-dire, il y en a qui voient la vie en rose, moi il y en a voir la vie en noir. Est-ce le monde une overdose d'horreurs diverses, de désespoir? Ou bien l'effet d'une psychose dès le départ, va-t-en savoir?
Et en plus, ça sonne même sans la musique. Alors, je vous raconte pas avec la musique. On fait une pause très courte. On retrouve tout de suite Nathalie Dessay.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité. Cet après-midi, c'est Nathalie Dessay, à l'occasion de la sortie de son album hommage à Claude Nougaro.
Tout là-haut, Nougaro doit se réjouir. Personne ne pouvait reprendre avec plus de grâce 14 de ses titres gravés sur l'album Dessay Nougaro, réalisé par le génie de l'orchestration Yvan Cassard. Je reçois Nathalie Dessay. Alors, chère Nathalie, quelle voix a votre maman et chante-t-elle? Quant à votre père?
Alors, c'est drôle que vous disiez ça, parce que pendant longtemps, on nous a confondu, ma mère et moi, au téléphone.
Vraiment?
Alors qu'elle ne chante pas du tout. Je ne l'ai jamais, quasiment jamais entendue chanter. Mais pourtant, potentiellement, la même voix.
Alors, elle sort d'où, cette voix bénie des dieux? Ça n'est pas un ADN comme ça?
Je ne sais pas, en tout cas, transmis. Mon père, lui, il aime chanter. Il a une voix de baryton, tout à fait normale. Et c'est drôle que j'ai chanté. Je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Pas du tout.
Il paraît qu'enfant, vous avez détesté l'apprentissage du piano imposé par vos parents.
Oui. J'ai haï cet instrument.
À ce point-là.
Alors qu'aujourd'hui, c'est celui que j'aime probablement le plus écouter.
Et en revanche, vous avez adoré la manière dont Jacques Demy et Michel Legrand ont, j'ai presque envie de dire, mis en musique votre enfance, Nathalie Dessay. Peau d'âne, par exemple, a été une révélation.
Oui. Ah bah oui, moi je voulais faire Catherine Deneuve comme métier. Donc voilà.
Et ne porter que la robe, et couleur de temps,
que celle-là.
Couleur de lune.
Que celle-là.
Voilà. Donc par exemple, dans les comédies musicales, enfant, vous imaginez en actrice qui chante et pas en chanteuse qui joue.
Non, j'ai toujours adoré les acteurs. J'aurais même peut-être pu ou dû faire agent d'acteur. Tellement je les aime, tellement je les observe.
Pourquoi agent d'acteur et pas actrice directement?
Alors je suis actrice aujourd'hui.
Certes, mais une actrice qui chante.
Oui, mais je suis une actrice qui aime les acteurs. J'aime les autres acteurs et j'aime les regarder. J'aime les regarder travailler et essayer de percer ce mystère qui est de comment on se met dans tel ou tel état, comment on ment vrai.
Des questions qui... Mais vous l'avez percé, désormais, ce mystère du mentir vrai, puisque vous faites du théâtre.
Oui, je le fais, mais je me pose toujours la question, et je suis fascinée par ça. Mais c'est quelque chose qui a à voir avec l'enfance aussi, comme quand on jouait à... Alors on dirait qu'on serait des artistes de cirque, ou des cow-boys et des indiens, ou je sais pas quoi. Et quand on s'immergeait complètement dans le moment, et que c'était notre travail d'enfant, en fait, de jouer.
Ben voilà, pourquoi il faut que l'enfance continue d'infuser les adultes. Alors, moi je déroule le fil. Nathalie Dessay, jusqu'à l'âge de 15 ans, vous avez fait de la danse classique. Mais les pointes, Les Entrechats et vous, c'était pas franchement une grande histoire d'amour.
J'adorais ça. Non, j'adorais ça. Et si j'avais été un tout petit peu plus douée physiquement, c'est ça que j'aurais fait. Mais c'était très difficile, j'avais pas beaucoup d'en dehors, j'avais du coup de pied à droite mais pas à gauche, j'étais pas extrêmement souple. Alors bien sûr, tout ça, ça aurait pu se travailler, mais il se trouve que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas non plus des cours très performants, on va dire. Ça serait aujourd'hui à Paris, probablement que je ferais plus de danse et que j'aurais un meilleur niveau, etc.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le théâtre qui vous a amené au chant. Ce n'est ni le fruit d'une volonté, ni d'une envie. Vous aviez 19 ans, je crois, vous étudiez le théâtre au Conservatoire de Bordeaux. Et voilà qu'on vous distribue dans une pièce de Crébillon. Vous nous racontez la suite ?
Oui, alors c'était Les Égarements du cœur et de l'esprit, qui n'est pas une pièce de théâtre d'ailleurs, on avait adapté ça d'un roman. Et dans cette pièce, je devais jouer le rôle d'une aristocrate folle d'opéra qui chantait. Et donc je choisis de chanter l'air de Pamina dans La Flûte Enchantée. Et donc quand je chante, tout le monde me dit oh, « Mais t'as une trop jolie voix, c'est ça que tu dois faire, tu dois apprendre le chant, etc. » Et les retours sont tellement plus positifs que quand je joue sans chanter, que je me dis « Bon, ça va peut-être être le moyen d'aller sur scène à coup sûr. »
Chanter. Mais alors, ça signifie que vous avez démarré les cours de chant, en fait, très tardivement,
oui,
Nathalie
Dessay. Enfin, j'avais commencé un petit peu à 17 ans, mais très peu, 6 mois. Et puis j'ai recommencé vraiment sérieusement à 20 ans.
Mais pour espérer envisager une carrière lyrique professionnelle, démarrer à 20 ans, c'est vraiment
très
tard.
Non, c'est pas trop tard. C'est tard, mais c'est pas trop tard.
Mais à quel âge, généralement, ceux qui font justement des carrières internationales à l'opéra démarrent-ils le chant ?
Ben justement, c'est dans ces eaux-là. De toute façon, il faut... On peut bien sûr commencer la musique beaucoup plus tôt, on peut aller dans une maîtrise, mais bon, moi ma fille a commencé le chant à 15-16 ans, mais oui, 20 ans, ça va encore.
Bon, j'imagine que pour une voix de soprano coloratour, qui est la tessiture la plus aiguë et cristalline qui existe, les premiers professeurs ont une responsabilité inouïe. Est-ce qu'un mauvais premier professeur peut vraiment abîmer, voire briser une voix de soprano coloratour?
Oui, mais une voix tout court. Oui, bien sûr. Alors après, je dirais que pour faire ce métier, il faut quand même avoir un instinct de survie et un instinct de comment apprivoiser son corps aussi. Donc, moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur des gens qui ne m'ont pas détruite. Et puis quand je suis tombée sur des gens que je trouvais un peu bizarres ou avec qui je n'étais pas d'accord, je ne les ai pas écoutés.
Bon, au conservatoire, Nathalie Dessay, on peut travailler un instrument, par exemple, 6 heures par jour, la danse 4 heures par jour, mais la voix ?
Non, la voix, c'est sur le long terme et c'est sur la régularité. En fait, c'est un petit peu chaque jour. Et
un petit peu, c'est-à-dire ?
Je ne sais pas, au début, c'est une demi-heure, après, c'est pas plus d'une heure, parce que ça se fatigue vite et surtout quand on n'a pas la bonne technique. On peut aussi se faire mal si on travaille trop et pas très bien.
Europe 1.
J'ai 1000 questions à vous poser. Alors, on se retrouve dans un instant. On se balade avec Nathalie Dessay cet après-midi.
Europe 1. Il est 15h20 et on retrouve Isabelle Morizet et son invité pour la suite de leur conversation. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Pour la décrire, il faut des superlatifs car elle excelle en tout. Je reçois l'immense Nathalie Dessay qui sort un album hommage à Claude Nougaro. Nathalie Dessay, alors on l'a compris, chanter à l'opéra, c'est entrer au Carmel. Mais quelle disposition particulière faut-il, en plus d'une voix lyrique éblouissante et d'un tempérament de sportif de haut niveau, pour entrer dans le sérail des cantatrices planétairement connues ?
Moi, je dirais qu'il faut beaucoup de détermination, beaucoup de discipline, pas avoir peur du travail sur le détail. Et puis, il faut bien s'entourer aussi. Donc ça, c'est compliqué.
C'est-à-dire agréger toute une équipe autour de soi.
Ouais, en fait. Je crois comme on est très très seul dans ce métier, il faut quand même essayer d'être bien entouré, même familialement, je dirais aussi. Parce que c'est dur sinon.
Vous n'aimez pas le terme de diva. Vous dites que, en fait, diva, c'est un mot de journaliste. Pourtant, des divas, il y en a eu. Et Maria Callas en était une de diva.
Oui, mais c'était une autre époque, je crois.
Il n'y a plus aujourd'hui de diva, Nathalie Dessay ?
Non, il y a des artistes exceptionnels, bien sûr qu'il y en a. Mais je ne dirais pas que c'est des divas au sens... peut-être que le public considère ça comme ça, mais moi, ce que je vois parmi mes collègues, c'est que ce sont des gens qui travaillent dur et qui ont quand même une vie, des familles, des enfants, une vie normale, quoi.
À peu près normale, parce qu'en fait, une cantatrice passe son temps
beaucoup
à sillonner le
oui,
monde.
Oui, ça voyage beaucoup, mais ça les empêche pas, pour la plupart, en tout cas, d'essayer d'avoir aussi une vie personnelle riche. Et elles ont bien raison, parce qu'au final, c'est ça qui compte.
J'évoquais à l'instant Maria Callas, mais par exemple, sans tenir compte de ses amours tragiques avec Onassis, la légende de la Callas, vous pensez qu'elle est justifiée par quoi ?
Ah oui, bah, c'est-à-dire par tout. C'est-à-dire une voix exceptionnelle, un tempérament exceptionnel, une transformation physique exceptionnelle, ouais, puisqu'elle est quand même passée de grosse cantatrice ingrate à la voix d'or, certes, mais moche, on va dire, à gravure de mode.
Ouais.
Et du coup,
a-t-elle perdu d'ailleurs un
non,
peu de sa voix ?
Moi, je dirais non.
Les esprits chagrins
c'est
prétendaient
faux
ça. C'est faux.
C'est faux. C'est faux. Elle a magnifiquement chanté en étant mince. Et simplement, en étant mince, autre chose s'est ouvert. Tout un autre monde s'est ouvert à elle. À partir du moment où elle est devenue belle, je pense qu'elle a eu accès à la vie. Et c'est ça qui l'a poussée hors de l'opéra, en fait. Alors certes, après, elle a moins bien chanté, etc. Où elle est... parce qu'elle avait envie d'autre chose.
On peut penser au parallèle avec vous. Vous avez
pendant
presque 30 ans été soprano coloratour, cantatrice planétairement connue. Et puis, vous nous l'avez dit, vous êtes sans doute la seule en France. Soudain, vous changez totalement d'aiguillage. Vous aviez envie de vivre ?
Oui, j'avais envie de vivre. Oui, oui. J'avais envie de vivre, j'avais envie d'explorer d'autres choses. Et surtout, j'étais arrivée au bout d'un parcours. C'est-à-dire que moi, j'étais soprano léger, donc j'étais vouée au rôle de soubrette et de jeune première. Et à 48-50 ans, mais j'en avais ras-le-bol, quoi.
Vous en aviez fait le tour.
Ben oui.
Des rôles de soubrette et de jeune première.
Ben oui.
Alors, je reprends la chronologie de votre histoire qui est fascinante, Nathalie Dessay, parce que vous qui, au départ, vous rêviez comédienne et non pas chanteuse lyrique, vous avez débuté en 92 à l'Opéra Bastille dans une production des Contes d'Hoffmann signée Roman Polanski. Donc c'est quand même un très joli clin d'œil du destin, c'est absolument incroyable ça, de démarrer avec, pour producteur, Roman Polanski.
Oui, en fait, c'était
sur
son,
scène,
ça a été son seul opéra, il
n'a oui,
jamais
vous
rien fait d'autre. Bon, enfin voilà. Après, bon.
Après, bon, mais alors, c'était pour l'opéra, c'était un metteur en scène efficace ou pas ?
Il a fait une assez jolie production, surtout le premier acte dans lequel j'étais. Après, bon, il demandait beaucoup conseil à son décorateur, parce qu'il ne savait pas trop comment s'y prendre.
Mais vous avez toujours fait preuve, vous, d'une nature très expansive et pleine d'audace sur une scène d'opéra. Est-ce que vous avez le sentiment, dans cet univers où tout est contraint, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir ouvert certaines portes quant à l'interprétation et au jeu dans l'art lyrique ?
Moi, j'étais fascinée par ça. C'est-à-dire que mon but, c'était de voir jusqu'à quel point l'opéra pouvait être du théâtre. Et en fait, l'opéra n'est pas du théâtre. Et j'ai fini par le comprendre. C'est-à-dire que on ne peut pas être un acteur à l'opéra parce qu'on est, cadré, contraint par la musique qui décide du temps,
ouais,
pour vous. Et c'est la règle du jeu et c'est, ouais, très bien comme ça. Simplement, je pensais qu'on pouvait éclater ce cadre. Et ce n'est pas vrai. Non, on ne peut pas. Et ce que j'aime au théâtre aujourd'hui, c'est que précisément la marge de manœuvre et la marge de créativité pour l'acteur est beaucoup plus grande et beaucoup plus difficile du coup. Parce qu'on n'a pas la musique pour nous dire ce qu'on doit sentir et à quel moment on doit le sentir. Mmh. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, beaucoup plus intéressant aussi, je trouve.
Alors, vous dites qu'à l'opéra, on ne peut pas exploser le cadre. Mais pourtant, vous êtes allé très très loin dans cette tentative. Pour quel rôle, justement, êtes-vous allé le plus loin dans l'expérimentation de ça ?
Bon, il y a eu Lucia, par exemple, dans la mise en scène de Serban, où c'était quand même très, très acrobatique et physique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je devais monter sur une structure métallique tout en chantant un truc extrêmement difficile. Il y a eu des herbinettes aussi dans Ariane Anaxos. Par exemple, c'est difficile de chanter en courant, par exemple.
Mais j'imagine.
Et c'est presque impossible.
On vous l'a fait faire.
Non, mais c'est moi qui voulais savoir jusqu'où je pouvais aller.
Et alors, il se passe quoi avec le diaphragme?
Eh ben, il se passe qu'on est essoufflé, que c'est encore plus dur, mais c'est bien de repousser les limites, justement. De voir jusqu'à quel point on n'est pas obligé d'être statique pour chanter. Et puis, il ne s'agit pas jouer, ce n'est pas forcément bouger. Mais en l'occurrence, c'est ça qui m'intéressait, d'explorer cette limite-là. De voir ce que le corps était capable de faire en situation extrême, j'allais dire.
On retrouve tout de suite Nathalie Dessay.
Il est 15h32, Isabelle Morizet retrace donc le parcours de l'ancienne cantatrice, fan de Claude Nougaro. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alfredo Arias, qui l'a dirigée à la Scala de Milan, dit d'elle, quand elle est sur une scène d'opéra, même si d'une seule note elle peut immobiliser le technicien le plus éloigné, et bien avec elle, on n'est pas à l'opéra, on est dans un film. Et j'imagine que ça convient très bien à Nathalie Dessay, l'une des plus belles voix du XXe siècle, qui se définit comme une actrice qui chante. Je reçois Nathalie Dessay pour l'album somptueux qu'elle a enregistré en hommage à Nougaro et baptisé simplement Dessay Nougaro. Alors, chère Nathalie, vous avez dit à la revue Classica en octobre 2015, chanter sur une scène d'opéra vous enlève de l'intelligence. On ne peut pas aller au bout d'une émotion. L'opéra n'est pas fait pour ça. Il faut juste que ce soit beau et toujours, bien évidemment, parfaitement chanté. Mais ce sont quand même des propos très virulents que de dire « chanter sur une scène d'opéra vous enlève de l'intelligence ».
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne fallait pas forcément...
J'ai lu ça dans
Classica. Oui, mais ils ont trahi mon propos. C'est-à-dire, j'ai dit que pour être chanteur d'opéra, il n'était pas nécessaire d'être intelligent. C'est ça que j'ai dit exactement. Parce que précisément, ce n'est pas là que ça se situe. Il faut avoir de l'instinct. Ça, c'est sûr, il faut être musicien, bien sûr, mais ça ne fait pas appel à l'intelligence. Je trouve que le fait aujourd'hui d'être actrice fait davantage appel à mon intelligence. Mais après, il ne faut pas non plus nécessairement être intelligent pour être acteur. Mais en tout cas, le fait de n'être que dans les mots fait plus appel à l'intelligence à la fois de l'interprète et surtout de celui qui reçoit, c'est-à-dire du spectateur. Et c'est ça qui me plaît dans le théâtre. Ou même dans la chanson.
Mais alors, permettez-moi de rester tout de même juste un petit moment sur ce qui a représenté 30 ans de votre vie professionnelle. À l'opéra, effectivement, vous nous l'avez dit, le chant n'est pas réaliste, les mots sont secondaires, puisque c'est la technique, la virtuosité, la performance qui prime. Et les prises de risque, surtout dans le répertoire virtuose d'une soprano coloratour, elles sont permanentes. Vous dites que, en fait, pendant toute cette période, vous étiez cantatrice, la terreur face aux performances, à réussir sur toutes les scènes d'opéra du monde, elle vous a plombé l'existence. Vous vomissiez avant d'entrer en scène, Nathalie Dessay?
Oui, au début, oui.
Vraiment?
Il m'est arrivé de vomir, oui. Et après, je toussais énormément. Et c'est très pénible parce que quand on tousse, je ne sais pas, 200 fois avant de rentrer sur scène pour chanter précisément, c'est compliqué.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut tenter d'expérimenter l'acupuncture?
Ben, j'ai tout essayé, jusqu'aux drogues dures. Non, je rigole. Mais j'ai tout essayé et il n'y a rien à marcher, en fait. La terreur était constante. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dès que je vais chanter, même de la chanson, la terreur est là encore. Alors qu'elle est très différente quand je vais jouer. C'est-à-dire, quand je vais jouer, il y a le trac, bien sûr, la peur d'oublier son texte, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est juste de l'adrénaline.
Vous parlez de terreur et non pas de trac quand il s'agit de projeter donc des notes, alors que vous avez 30 ans de carrière absolument éblouissante comme soprano coloratour, et que là, il s'agit d'incarner donc dans de la variété, qui semble tellement plus facile.
Ben oui, mais non. Non. Non, parce qu'il y a toujours quand même la peur de... Non pas de rater la note, évidemment, même si ça peut arriver, mais surtout la peur de trahir le texte, d'oublier le texte, par exemple. Ça, c'est toujours une peur qui m'accompagne.
Alors, un rockeur peut faire des notes approximatives. Bon, à l'opéra, ben voilà, on admet que la perfection, avec des voix surhumaines, dans un registre fait pour l'exceptionnel. Le rôle qui vous a fait vivre, en fait, vraiment, pendant toutes ces années, dans l'angoisse, c'est lequel? C'est la Reine de la Nuit, avec ses notes de Martienne, ses herbinettes chez Richard Strauss,
Non, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, chaque fois que j'avais à le faire. En fait, tout était difficile. Mais... Le plaisir est aussi à l'aune de la terreur.
Bien sûr.
Il ne faut quand même pas parler que de ça. J'ai adoré chanter.
Et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Absolument. Parce que chaque fois que je sortais de scène et que j'avais plus ou moins réussi, je me disais, Encore une ascension de l'Everest.
Alors, parlons de ces ascensions de l'Everest, Nathalie Decelle. La note la plus aiguë que vous ayez eue à tenir sur scène ou à reprendre plusieurs fois dans un même thème, c'est laquelle ?
Bah, une fois, j'ai rajouté une note sur aiguë, c'était un contre-la, je crois que c'était dans un opéra français. Je me souviens plus, peut-être dans Le Roi l'a dit. J'étais très jeune et c'était rigolo parce que c'était dans une cadence. Soudain, j'ai rajouté une note comme ça.
Et le chef d'orchestre a réagi comment en entendant cette note qui n'était pas la partition écrite ?
Oui, non, mais il savait que c'était la cadence. Et la cadence, elle appartient au chanteur. Donc, j'avais le droit de faire ce que je voulais.
Bon, bah alors, par exemple, quand on sait qu'il y a une note attendue par tous les puristes et suraiguë qu'il va falloir projeter, lorsqu'elle approche, j'aimerais savoir comment vit-on 5 secondes avant, comment se prépare-t-on mentalement ? Vous êtes sur la scène de la Scala de Milan, toutes les oreilles sont là à l'affût et vous allez devoir faire le triple salto.
Alors d'abord, il faut savoir que si on doit faire cette note, c'est qu'on sait la faire. Il faut savoir la faire. C'est-à-dire que je l'ai répétée chez moi 500 fois et elle est sortie 500 fois. Si elle n'est pas sortie 500 fois, je ne la fais pas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, évidemment, quand on est jeune, que la voix est souple, elle sort forcément. Et puis, que le temps passant, ça devient plus difficile. Mais la technique peut remplacer éventuellement la souplesse ou l'inconscience.
Ouais. Est-ce qu'il est vrai que dans les suraigus, il y a forcément une déformation des voyelles, c'est-à-dire que les mots deviennent inaudibles?
Oui, au-delà du milieu, on commence à déformer les voyelles pour que ce soit beau, en fait, et pour que ce soit rond. Donc du coup, on ne peut plus articuler véritablement les mots comme ils devraient l'être, ou comme ils pourraient l'être si on était dans une tessiture plus grave.
Souvent, à l'opéra, pour quelques airs fameux qui nous transportent et qui sont appréciés donc du grand public, il y a quand même le reste du livret qui, lui, s'adresse aux puristes et pas forcément à des oreilles contemporaines. Nathalie Decelle, est-ce que l'opéra est ancré dans le temps présent ?
Moi, je trouve que c'est un art du passé, mais c'est pas pour ça qu'il doit disparaître et c'est pas pour ça qu'on doit essayer de le transformer. Je trouve que c'est comme d'aller au musée. C'est bien aussi de voir une exposition Vinci de Léonard. Hein, parce que,
ça nous amène un peu de transcendance.
Ben oui, c'est la beauté, c'est la beauté du passé. Et on a le droit de vouloir que ça nous soit offert. Donc il ne faut pas essayer de le changer. Il faut simplement prendre conscience que oui, c'est un art du passé. Parce que cette façon de chanter comme ça, sans micro, alors qu'aujourd'hui on pourrait tout à fait se faciliter la vie avec les micros, ça semble complètement obsolète. Mais c'est bien plus beau parce que c'est inutile, précisément.
Dit l'une des plus grandes sopranos coloratour du monde qui, elle, expérimente et explore tant d'autres formes d'expression. On retrouve tout de suite Nathalie Decelle.
Europe 1. Des confidences, des anecdotes, un parcours qu'elle partage avec nous. Nathalie Decelle est l'invitée d'Isabelle Morizet cet après-midi. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie jusqu'à 16h sur Europe 1.
Yvan Cassar a dirigé Nathalie Decelle dans un album hommage à Nougaro qui est une pure merveille. Une grande tournée démarre à Lausanne le 27 mars, va sillonner la France en passant par de nombreuses grandes villes et va faire escale à Paris le 9 juin prochain au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Cet après-midi, ben voilà, on voyage en compagnie de Nathalie Decelle. Alors chère Nathalie, ça fait 5 ans maintenant que l'immense soprano coloratour que vous êtes a décidé
six
en
ans.
Pleine gloire. 6 ans
2013, la dernière production au
Voilà. Capitole. Que vous avez donc décidé de renoncer à l'opéra pour expérimenter toute autre chose. Vous nous l'avez dit, la raison, c'était que le répertoire d'une soprano coloratour est essentiellement un répertoire de jeunes premières et que vous en aviez fait le tour. Depuis, j'aimerais savoir, vraiment, vous ne vous êtes jamais réveillée un matin, avec la nostalgie de ces rôles virtuoses que vous avez défendus partout, sur les plus grandes scènes du Metropolitan Opera de New York, au Festival de Salzbourg, adulés comme ça, pour la rareté de votre art. Vous n'en avez jamais plus eu la nostalgie ?
Non, jamais. Je suis soulagée. Du jour où j'ai pris cette décision, j'ai été soulagée. J'ai comme respiré, enfin.
Enfin.
Oui, oui. Mais il faut dire quand même que je continue à chanter de manière lyrique avec Philippe Cassard, parce que bon, je ne travaille qu'avec des mecs qui s'appellent Cassard, hein, apparemment. Donc Philippe Cassard, qui est un pianiste merveilleux et avec lequel je continue à faire des récitals, mais de mélodies. Donc je chante du Schubert, du Wolf, du Fauré, du Debussy.
C'est-à-dire que, en fait, vous choisissez, vous faites un florilège oui. de ce que vous aimez le plus.
Oui. Et puis surtout, on est là encore dans la poésie. C'est ça que je privilégie. En fait, je trouve qu'on manque beaucoup de poésie aujourd'hui. Donc, quand je chante de la mélodie, je chante d'abord des poèmes. Et quant à la comédie musicale, c'est encore un autre champ d'exploration, si je puis dire, même vocale, puisque je prends des cours aujourd'hui pour,
vous prenez
pour
des
former
cours.
La voix
Nathalie
à la comédie
Dessay
musicale.
Prend des cours.
Ben oui, parce qu'il faut tout désapprendre pour réapprendre autre chose.
Ouais.
Parce que mixer la voix, faire du mix belt, du belt.
Une octave en dessous, en fait,
ah ben,
faut chanter.
Une ou deux même.
Ou même deux.
C'est totalement autre chose. Il faut fermer la gorge, il faut pas chanter fort, et il faut toujours penser qu'on est dans le micro. Et ça n'a rien à voir avec la technique vocale opératique.
Incroyable. Alors, je reviens juste sur cette césure, ce moment où vous allez renoncer à une carrière pour vous poser sur une autre planète. Bon, quand on est une danseuse étoile, on donne sa dernière représentation à l'opéra à l'âge de 42 ans, qui est celui de la retraite officielle dans cette discipline. Dans l'art lyrique, il n'y a pas de limite d'âge,
non.
N'est-ce pas ?
Non.
Voilà, c'est vraiment vous, Nathalie Dessay, qui avez décidé d'arrêter là votre histoire. Je voudrais savoir comment vous l'avez vécu, la toute dernière représentation officielle en tant que cantatrice au Capitole de Toulouse.
Joyeusement, très joyeusement. En fait, c'était Manon, un opéra que j'aime beaucoup, dans une mise en scène très jolie de Laurent Pelly. Et j'avais commencé là, dans les chœurs. Donc je voulais terminer là, dans Manon, avec un rôle que j'avais fait beaucoup. Et c'était extrêmement joyeux, il n'y avait aucune nostalgie. J'ai pas annoncé non plus au monde entier que c'était la dernière.
Mais le public qui vous a applaudi ce soir-là savait que c'était votre dernière représentation en tant que
cantatrice. Non, pas forcément. J'ai pas fait d'adieu, j'ai pas fait d'annonce. Non, non. Et justement, par exemple, je me refuse absolument à faire une tournée d'adieu. Je ne dirai pas non plus quand je ferai mon dernier récital.
Cette femme est incroyable.
Voilà.
Alors, cette même année, cette année-là, donc quand vous avez renoncé à l'opéra, vous avez sorti un album de reprises de Michel Legrand et vous dites que Michel Legrand, il vous a donné les clés d'un autre monde.
Oui. C'est-à-dire que ça a été une rencontre capitale pour moi. D'abord parce que j'adore sa musique, que travailler avec lui, ça a été extraordinaire. Mais surtout, ce qui m'a appris, parce que lui-même était un homme libre, c'est la liberté. Il m'a donné le courage de changer de vie. Parce que lui-même l'avait fait déjà plusieurs fois. Il m'a beaucoup, beaucoup inspirée, oui.
En faisant du théâtre, Nathalie Dessay, vous avez découvert la liberté, mais elle a appris la liberté, et vous avez avoué, je ne sais plus dans quel quotidien, que votre niveau de vie avait été divisé par 10. Il n'est pas anodin, le prix de cette
20.
Liberté.
Oui. La liberté, c'est toujours très, très cher à payer, bien sûr. Mais je regrette pas. Je regrette pas une seconde.
Votre mari, le baryton Laurent Naouri, est toujours
chanteur
d'opéra.
Oui, lui, il gagne bien sa vie, donc ça va.
Mais c'est pas la question que j'avais posée. Je voudrais savoir comment il a accompagné les décisions de son épouse rebelle.
Lui, il est très solidaire de mes décisions, en fait. Il comprend assez bien, il m'encourage, je trouve que, même s'il ne comprend pas en fait, il est avec moi.
Il est avec vous. Mm. Nathalie Dessay, alors désormais donc, sur scène vous chantez avec un micro, objet totalement surréaliste pour une cantatrice.
Mais qu'est-ce que c'est bien,
mais attendez, alors justement, vraiment il a été facile à amadouer?
Non.
Cet objet improbable,
non,
le micro?
Non, au début je chantais trop aigu et trop fort dedans. oui. Et notamment avec Michel, parce que Michel, lui, il écrit ses chansons toujours très aiguës, parce qu'il les écrit pour lui, toutes.
Ouais.
Et du coup, j'ai mis longtemps à comprendre que je devais faire très attention à la tonalité dans laquelle je voulais chanter les chansons, et que c'était pas parce que j'étais une voix aiguë à l'opéra que je devais chanter les chansons dans des tonalités aiguës.
Vous découvrez maintenant vos propres performances dans les graves?
Oui. Et j'ai une voix très grave, en fait.
Vous avez une voix de quoi, en termes lyriques, aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis toujours soprano. Mais j'ai beaucoup de graves quand il s'agit de pas chanter fort.
Et on vous les a jamais fait exploiter à l'opéra?
Non, parce que de toute façon, à l'opéra, ils sont même pas écrits, ces graves-là. Et puis, à l'opéra, comme il faut projeter la voix, moi, j'ai pas de grave à l'opéra. J'ai très peu de notes graves à l'opéra. C'est pas du tout mon cœur de cible. Moi, je suis vraiment une voix aiguë à l'opéra, en voix projetée. Mais en voix non projetée, je vais très, très grave.
Magnifique, dit-elle, comme ça, sur un grain de velours. On s'interrompt un bref instant et on retrouve tout de suite Nathalie Dessay.
15h53 tout pile, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Dernière partie en compagnie d'Isabelle Morizet et donc de l'ancienne cantatrice Nathalie Dessay.
Nathalie Dessay, elle est fausse ou elle est vraie, cette légende qui raconte qu'un jour, à la maison, on est en 2000, hein, le téléphone sonne et vous entendez au bout du fil la voix de la star planétaire absolue de l'époque, Madonna, qui vous demande, de la manière la plus naturelle et décomplexée qui soit, qui vous demande si vous pourriez venir chanter pour le baptême de son fils, Rocco.
Oui, c'est vrai, à Inverness. Et en fait, j'ai pas pu y aller. Donc voilà, j'ai loupé l'occasion de rencontrer Madonna.
Ça vous aurait amusé?
En fait, je l'ai rencontrée après, mais elle n'était pas très contente parce qu'elle se souvenait très bien que j'avais décliné son offre.
Vous l'avez décliné, mais directement au téléphone?
Oui, parce qu'à l'époque, j'étais justement à la Scala. J'étais en répétition pour la Somnambule, et donc je ne pouvais pas me rendre à Inverness au milieu de répétition.
Bon. Et elle en a été contrariée parce qu'on ne dit pas non à Madonna.
Ben voilà.
Bon, plus sérieusement, est-ce qu'un jour vous enseignerez?
Non.
Est-ce que vous songez à la transmission?
Non.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pourquoi?
C'est pas mon truc. Je déteste la pédagogie, je déteste enseigner et je déteste transmettre.
Vous avez tenté de le faire?
J'ai fait
pour
quelques petits
que
masterclass comme ça, mais c'est pas mon truc du tout. J'ai aucune patience. Je suis dans l'action, c'est-à-dire je suis dans l'expérimentation de faire les choses. Donc je ne suis pas du tout dans la transmission. Et je pense que je ne serai pas du tout un bon prof.
L'amour du chant, en tout cas, vous avez su le transmettre à votre fille, qui sous la direction d'ailleurs d'Yvan Cassar, qui aussi a réalisé votre album de C'est Nougaro, a enregistré, là je parle de votre fille, en duo avec vous, un titre sur l'album des plus belles comptines d'Oku. C'est joyeux d'enregistrer avec sa fille.
Ouais, c'est super, surtout qu'elle chante hyper bien. Là je suis allée l'écouter dans le violon sur le toit à Strasbourg, une magnifique production, et c'est absolument génial de voir ses enfants... d'une certaine manière reprendre le flambeau,
mais
même sans ça, les voir faire quelque chose qu'ils aiment et dans lequel ils sont bons. Mon fils est saxophoniste, il étudie à l'école de Didier Lockwood, Adam-Marie Lélis.
Oui.
C'est un magnifique musicien aussi. Moi, c'est ça qui me ravit. C'est pas tellement qu'ils fassent de la musique. Oui, bien sûr, c'est sympa, mais c'est surtout qu'ils fassent un truc qu'ils aiment et dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir. Comme
vous avez
nous,
compris,
on s'est épanouis.
Très très tôt, même peut-être avant elle, vous avez compris très tôt que votre fille allait reprendre justement le flambeau.
Non, je savais qu'elle avait une voix, qu'elle voulait éventuellement faire ça, mais comme elle était très douée pour les études, je pensais qu'elle allait faire des grandes études. Elle aurait pu, mais elle a fait un an de classe préparatoire.
Et lui avez-vous dit alors quand elle a fait son choix?
Je lui ai dit que je l'encourageais parce que même si j'étais un peu déçue par rapport à ce qu'elle aurait pu faire, j'allais dire intellectuellement, mais en même temps je l'encourage parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Donc à partir de ce moment-là, quand on a un don, il faut le faire fructifier, il faut le développer.
Nathalie Dessay, en 2020, vous allez donc tourner avec l'album Hommage à Nougaro. Alors, en plus des 14 titres somptueux que vous avez enregistrés pour l'album, j'aimerais bien savoir ce que vous allez nous livrer dans ce spectacle, baptisé comme l'album de C'est Nougaro.
Oui, sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches aussi. C'était un peu le sous-titre
voilà.
De l'album. Je ne sais pas du tout, en fait. On en est à essayer de choisir 6 ou 7 autres chansons. J'ai envie de dire des textes aussi. J'ai envie que cette soirée soit vraiment une soirée de poésie autour des textes de Claude. Et que ce soit un hommage à la langue française.
Claude Nougaro aurait 90 ans cette année. 90 ans. Il est moderne pour toujours.
Pour moi, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, il est un des rares qui fait vraiment swinguer la langue française. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
On peut parler même de groove.
Ouais. Et puis, en plus, ce qu'il y a, c'est que c'est son amour de la musique et son éclectisme aussi. En tant que musicien, est vraiment hyper intéressant et rejoint l'amour que j'ai moi aussi pour le jazz et pour la musique brésilienne, par exemple.
Mais vous saviez, lorsque vous étiez cantatrice, que vous possédiez, ce groove que jamais vous n'aviez en fait utilisé en représentation ?
Pas du tout, et puis d'ailleurs j'ai encore du mal. C'est difficile de se placer, comme on dit, quand on a été habitué à être très carré, comme en musique classique.
Être dans le lâcher-prise,
ouais,
en fait.
Le lâcher-prise et puis le swing, c'est difficile pour un musicien classique. Et donc, j'apprends petit à petit aussi. Ce n'est pas quelque chose qui m'est forcément naturel.
C'est une naissance.
Ouais.
Autre. Ouais. Alors, la tournée Hommage à Nougaro démarre le 27 mars 2020 par Lausanne. Elle ira enchanter toutes les grandes villes de France. Elle passera cette tournée par Paris le 9 juin au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Je pense qu'il y a plein d'autres dates qui vont se rajouter à cette tournée. Au-delà certainement de l'été, n'est-ce pas ? Ce sera sans doute toute l'année 2020.
Aussi. Oui,
et bien voilà. À très très vite, Nathalie.
Merci. Lecet.
C'était une merveille de pouvoir comme ça converser avec vous. Et
de chanteuse à chanteuse.
mon Dieu, si humblement je me cache, je rougis, je me cache, voilà. Merci infiniment, Nathalie.
Merci à vous.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet revient bien sûr demain dès 15h sur Europe 1, en compagnie d'un vieux loup de mer, le navigateur Olivier de Kersauzon.